France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Jean Castex demande aux Français un acte qu'il juge altruiste, à savoir se faire vacciner. Le gouvernement a annoncé hier un plan de vaccination en 3 phases. En janvier, les retraités en EHPAD, leurs soignants, soit 1 million de personnes seront vaccinées. Les plus fragiles au mois de février, environ 14 millions de Français. Et puis le reste de la population au printemps. À la moitié des Français qui hésitent à passer à l'acte, le Premier ministre répète que le vaccin n'est pas obligatoire, mais il sera gratuit. Ce plan sanitaire du gouvernement sera présenté au Parlement, tandis qu'un conseil d'orientation vaccinale sera créé, un conseil composé de scientifiques et d'associations de patients. Et alors que la France et de nombreux pays ont déjà passé commande, Pfizer annonce revoir à la baisse sa production de vaccins contre le Covid-19. Le laboratoire américain connaît des soucis d'approvisionnement. Pour Noël, avant les vaccins, par ailleurs, ce sera en France 6 adultes à table, pas plus. Recommandation du gouvernement, on ne compte pas les enfants et on respecte toujours les gestes barrières, disent les autorités. En Angleterre, les étudiantes, 1 semaine à partir d'aujourd'hui pour quitter leur campus, décision du gouvernement britannique, afin qu'ils puissent passer Noël en famille. Ces étudiants devront, avant de partir, se faire dépister. Sachez qu'aux États-Unis, 210 000 cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés en une seule journée. C'est un record absolu depuis le début de la pandémie. Et puis aux États-Unis, notons que les studios Warner Bros. Diffuseront tous les films prévus en 2021 aux États-Unis sur leur plateforme de vidéo à la demande HBO. Et cela en même temps que leur sortie en salle de cinéma. Des films donc sur Internet en même temps qu'au cinéma. Warner Bros. Dit faire preuve de créativité dans cette période de confinement et de pandémie. Cela va concerner au moins 17 films, dont le très attendu Matrix 4.
Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain, un pain de 12 livres.
C'est un cœur infini, l'amour à l'état absolu, dit-il à propos d'un cœur simple. France Culture vous propose de redécouvrir ce conte de Flaubert dans la voix de Fabrice Luchini. 2021 célébrera le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. En mémoire de ce géant de la littérature, une lecture exceptionnelle de Fabrice Luchini, Un cœur simple, théâtre et compagnie, ce dimanche à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Elle a reçu cette semaine le prix Goncourt des lycéens pour son roman Les Impatientes. Jaïli Amadou Amal est notre invitée.
Sur France Culture, les matins du samedi, Chloé Cambrelin.
Patience, mot répété ad nauseam aux 3 femmes qui vivent dans ce roman, mariage forcé, viol conjugal et polygamie. Patience pour taire les violences imposées par les familles et les traditions dans cet extrême nord du Cameroun où est née Jaïli Amadou Amal, elle qui dit que la littérature lui a sauvé la vie.
Les matins du samedi, dès 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture et c'est l'heure de retrouver Bruno David pour Le Monde Vivant.
Novembre 1492. Le ciel d'Alsace, traversé d'une traînée lumineuse, se déchirait et une pierre de tonnerre s'écrasait à proximité de la ville d'Ensisheim. Un signe divin, immédiatement interprété comme favorable par l'empereur Maximilien Ier. Il décide de livrer bataille au roi de France Charles VII et il gagne. La preuve que Dieu était de son côté. La météorite, car c'en était bien une, étant un don de Dieu, l'empereur demande à ce qu'elle soit enchaînée dans l'église afin d'éviter qu'elle ne rejoigne le ciel ou, plus prosaïquement, que les paroissiens n'en prélèvent des fragments porte-bonheur. Car même si elle pesait plus de 100 kilos, elle aurait vite fondu. Pour clore cette histoire, la météorite fut libérée de ses chaînes par la Révolution qui l'installa dans la bibliothèque de Colmar. Ce n'était pas la première fois que le ciel faisait tomber une grosse pierre ou une pluie de petites pierres sur la terre. Le plus ancien témoignage qui nous soit parvenu remonte à 2500 ans avant notre ère, il est relaté dans l'épopée de Gilgamesh, personnage mythique qui régna sur la Mésopotamie. Pendant des siècles, tous les témoignages convergeaient pour faire de ces objets étranges des pierres tombées du ciel, souvent désignées sous le nom de pierre de tonnerre. Pour le rationalisme naissant du siècle des Lumières, des pierres forgées par le tonnerre, des pierres de foudre, ne pouvaient être que des superstitions colportées par des esprits un peu naïfs. En 1734, l'Académie publie un texte intitulé « Sur les prétendues pierres de foudre ». En 1768, trois savants, Fougeroux, Cadet et Lavoisier, observent une pierre trouvée au Grand Lucé dans la région du Mans et supposée être arrivée par les airs. La gravité étant connue depuis Newton, ils rejettent l'idée que cette pierre soit venue du ciel. En plus, la pierre est assez banale, ils l'analysent. Sous une croûte superficielle noire, on découvre une roche granuleuse, grisâtre, parsemée de taches de rouille. Ce serait tout simplement un grès qui aurait été frappé par la foudre. L'affaire semble entendue. Le premier à contredire scientifiquement cette hypothèse est l'Allemand Ernst Chladni, en 1794, mais il n'est pas écouté. Pourtant, le scepticisme persiste. Se pourrait-il que des pierres se forment dans l'atmosphère ? Viendraient-elles de plus loin ? La véritable rupture intervient en 1803, lorsqu'une chute spectaculaire se produit à proximité de la commune de L'Aigle, en Normandie. Jean-Baptiste Biot, jeune physicien mandaté par l'Académie, se rend sur place et recueille les nombreux témoignages. Curés, paysans, châtelaines, tous convergent. Son rapport est sans équivoque. Les pierres tombées à L'Aigle sont d'origine extraterrestre. Le rapport de Biot provoquera une prise de conscience par la communauté scientifique et sera le point de départ de la science des météorites, devenue aujourd'hui partie prenante de la cosmologie. La morale de cette histoire est que parfois, fort rarement quand même, les croyances populaires ont un temps d'avance sur la connaissance scientifique.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Ce matin en compagnie de Jérémy Moreau. Sa nouvelle bande dessinée, intitulée Le discours de la panthère, éditée chez 2024, est un recueil de 6 fables animalières. Des petits contes philosophiques, si vous voulez. Quoique contes ou fables, ce serait pas tout à fait ça, puisque aucune de ces histoires ne délivre des leçons de morale, mais chacune d'elles invite à la réflexion avec un brin d'humour, ce qui n'est pas de trop quand on aborde les questions existentielles. Jérémy Moreau est mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Jérémy Moreau.
Et bonjour Toufik.
Alors, cette fois-ci, ce sont les animaux qui vous intéressent. Hein. Généralement, c'était les hommes face à une nature qui se déchaîne, face à des éléments violents, des hommes qui doivent survivre au milieu de volcans en éruption. On pense bien sûr à l'album qui a fait votre célébrité, puisqu'il a décroché en 2018 le prix suprême du Festival d'Angoulême, le Fauve d'or du meilleur album, La Légende de Grimm. Et là, les hommes ont disparu, il n'y a plus que des animaux. Qu'est-ce qui vous arrive, Jérémy Moreau ?
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'avais trop d'hommes dans la tête. Tout ça s'est passé, en fait, je regardais des documentaires animaliers avec ma compagne il y a quelques années et j'avais été notamment très marqué par cette séquence dans les documentaires live de la BBC dans lesquels on voyait un dragon de Komodo qui s'attaquait à un buffle. Ce dragon de Komodo reste pendant plusieurs semaines au chevet du buffle. Il attend patiemment que le buffle s'écroule et pour finalement le dévorer avec tous les autres dragons de Komodo. Et cette image m'est restée très fortement dans la tête. J'y ai beaucoup repensé et j'ai vraiment voulu transformer cette matière en histoire. Et à partir de là, le pas était franchi de me projeter dans la tête d'un autre animal et j'ai commencé à élaborer plusieurs petites histoires qui finalement se sont retrouvées sous cette forme dans ce recueil du discours de la panthère.
Puisqu'on parle du buffle, et ben c'est ainsi que s'ouvre votre bande dessinée, le discours de la panthère, un buffle qui essaye de sauver son île d'une comète qui semble se diriger tout droit vers cette petite île. Et voilà, donc il essaye de sauver son île en la poussant lui-même, mais il va être attaqué par un varan.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai détourné un petit peu cette séquence du documentaire. Effectivement, ils vont se prendre d'amitié l'un pour l'autre petit à petit. Et donc c'était vraiment essayer de me projeter dans la tête d'un animal. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec sa victime pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines? Est-ce qu'il ne peut pas se tisser des liens d'amitié entre l'un et l'autre? Et donc il va se prendre de passion pour ce buffle qui essaye du coup de sauver cette île de cette fameuse comète qui va s'écraser. Et c'est un petit peu un conte sur la vie, la mort. Je pensais un petit peu au roi Summer de Ionesco, où finalement cette île, c'est le royaume de ce buffle, c'est toute sa vie. Et en fait, tous ces flots qui va arriver à faire traverser à cette île, ce n'est que le chemin de sa vie jusqu'à sa mort, puisque finalement, le chemin qu'il a fait parcourir à cette île l'a amené précisément à l'endroit où la comète va tomber. Dernier instant où finalement la mort le rejoint.
Bah, c'est triste.
Oui, mais ce n'est que la première des histoires. Et effectivement, elle introduit le thème qui va courir un petit peu jusqu'à la dernière histoire, le thème de la mort, et qu'on retrouvera que dans la dernière histoire et durant le fameux discours de la panthère.
Un buffle, un varon, un étourneau qui veut s'émanciper de son groupe pour découvrir le monde, un singe qui pleure la disparition d'un être cher quand une autruche, elle, souffre de se sentir si laide, et bien sûr, vous venez d'en parler, une panthère qui philosophe avec Nietzsche. Alors, toute cette ménagerie pleine d'humanité, tous ces contes se recoupent par moments dans ce monde où l'homme est d'ailleurs singulièrement absent. Est-ce que vous avez employé le terme de conte? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une morale que vous vouliez délivrer? Auquel cas, ça m'a échappé.
Non, effectivement, l'idée c'était vraiment de s'éloigner le plus possible des contes moralistes. J'ai une petite fille en ce moment, donc je suis confronté au problème de l'éducation, de lui raconter des histoires et tout ça, et je déteste absolument lorsqu'il y a une notion de punition, de « tu n'aurais pas dû faire ça, c'était mal », une sorte de jugement. Et donc du coup, appliqué à l'éducation, c'est ce qu'on appelle l'éducation bienveillante. J'essaie de faire des récits bienveillants de la même façon. Je déroule des histoires de personnages, il leur arrive des tracas, j'essaie de reproduire un petit peu tous les aléas auxquels on peut être confronté dans la vie de tous les jours. Et surtout ne pas finir sur une notion de punition, de jugement. Donc de cette manière, ce petit Bernard l'ermite va passer un petit peu à côté de sa vie à chercher constamment la plus belle coquille du monde. Finalement, il va en trouver une absolument somptueuse et il va passer toute sa vie à l'intérieur et il va passer à côté de sa vie de famille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une sanction de voilà, à courir après la beauté, on passe à côté de la vie. Et donc, il y a ce dernier petit rebondissement à la fin de l'histoire où finalement, une maman Bernard l'ermite passe avec son enfant. Il tombe amoureux et finalement il repart avec elle.
Est-ce qu'on peut
donc
dire
que... c'est oui. De cette façon que je construis.
Est-ce que vous avez construit justement ces histoires, Jérémy Moreau, avec des thèmes? Parce qu'il y a le thème de la mémoire, il y a aussi le thème des migrations, c'est-à-dire ce sont des thèmes d'actualité. Alors, bien sûr, ils sont abordés dans des contextes très très particuliers, ce sont des histoires animalières, il faudrait le rappeler, mais bien sûr, ces thèmes, ce sont aussi des thèmes qui nous concernent, nous, les hommes, si étrangement absents dans cette bande dessinée.
Oui, mais c'est ça qui est génial, c'est que moi je n'ai absolument pas abordé la bande dessinée ou construit mes récits en me disant « je vais faire un thème sur la mémoire, un thème sur la mort ». J'ai vraiment fait cet exercice de me dire qu'est-ce que ça peut faire que d'être un éléphant et de devoir veiller sur la mémoire du monde? Qu'est-ce que ça peut faire d'être un étourneau et de devoir constamment faire toujours le même chemin? Et en fait, de manière très légère et simple, je me suis laissé embarquer dans dans chacune des histoires. J'allais avec chacun des personnages et les thèmes se déroulaient tout seuls, en fait, en me disant, en me posant, alors, qu'est-ce que ça fait que d'être un étourneau, d'être dans le ciel, de voir constamment les mêmes paysages quand on a le goût de l'aventure. Et voilà.
Et cette bande dessinée, elle se présente comme si c'était un livre pour enfants, hein, ne serait-ce que le format de la bande dessinée, format plus grand que vos précédentes bandes dessinées, le dessin aussi, c'est un dessin où la couleur est chatoyante. Est-ce que c'était d'abord le public visé, les enfants, Jérémy Moreau?
Alors c'est très compliqué cette question du public visé, j'aimerais tellement pouvoir l'éradiquer au moment où je formule mes histoires. Le fait que ce soit des récits animaliers, j'ai l'impression, pousse forcément à imaginer que ce sont des histoires pour enfants. Et donc, cette injonction s'appliquait même à moi, je m'auto-appliquais cette censure. Et donc, j'avais commencé par imaginer ces histoires sous forme de livres pour enfants. Je pensais les publier chez une maison d'édition jeunesse. Et puis à chaque fois que je me mettais à mon bureau pour écrire ces histoires, le fait de me dire ça va être pour des petits-enfants, il va falloir aborder des questions de manière la plus simple possible, me restreindre dans le vocabulaire.
Et dans le trait,
on va en parler. Je n'arrivais pas à toucher de ce que je voulais faire. Mmh. Et dans le trait aussi. Et dès lors que j'ai décidé de les composer dans un recueil, de lier toutes les histoires les unes avec les autres, de ne pas m'empêcher de parler de thèmes philosophiques comme la mort, la mémoire, tout ça, ça a débloqué quelque chose en moi. Donc ça fait un espèce d'objet hybride qui, à mon avis, s'adresse à tous, autant aux adultes qu'aux enfants. Et c'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans la trajectoire du livre, puisqu'il est sélectionné pour les pépites à Montreuil notamment.
Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, a long time ago, he saw an animal that liked to growl, big furry paws, and he liked to howl, great big furry back and furry hair. I think I'll call it a bear. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. In the beginning, a long time ago, he saw an animal up on the hill, chewing up so much grass until she was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. He said, I think I'll call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, man gave names to all the animals. Beginning, a long time ago, he saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Avec Jérémy Moreau dans sa dernière bande dessinée, il n'y a que des animaux. Une autruche qui est complexée, elle se croit vraiment très moche. Un varan qui est désolé parce qu'il a peut-être provoqué la mort du buffle qui lui essaye de sauver son île. Mais il y a aussi une, bien sûr, une panthère qui philosophe, Bernard l'ermite à la recherche d'une maison, et puis aussi des oiseaux qui essayent de trouver une autre trajectoire, une autre vie à celle qui leur est tracée. Sans oublier bien sûr l'éléphant qui a la mémoire qui flanche, or c'est lui qui doit justement transmettre la mémoire. Dans le discours de la panthère, Jérémy Moreau, vous êtes plus sous l'influence de Claude Lévi-Strauss et Philippe Descola qu'à l'ombre de Jean de La Fontaine ou de Rudyard Kipling. Ce qui n'est pas plus mal, mais c'est aussi une manière de nous plonger aussi dans tout ce que vous avez peut-être lu comme étude ethnologique, philosophique.
Oui, je continue de tirer ce fil que j'ai initié avec la saga de Grimr, et je vogue de lecture en lecture avec Panse. C'était l'occasion de me pencher principalement sur Deleuze et Leibniz, sur la notion de pli, mais en le raccrochant à la nature. Et finalement, c'était assez rapproché de Spinoza et de la notion de conatus et de puissance. De quelle manière est-ce que une force peut s'activer dans une plante pour la faire germer? Et je poursuis mes lectures et qui m'ont récemment emmené, comme vous disiez, Lévi-Strauss ou Descola, et puis aussi des plus jeunes, la nouvelle génération, Baptiste Morisot ou Nastasia Martin, Vinciane Després aussi, qui a fait un livre merveilleux qui s'appelle « Habiter en oiseau ». Et qui explique vraiment ce que moi j'aimerais arriver à mettre en forme dans des récits, c'est-à-dire imaginer le monde en étant un oiseau. Donc elle parle de territoire chanté. De quelle manière est-ce que le territoire d'un oiseau se forme par le chant, de manière auditive. Le territoire n'est pas juste un espace et des frontières, et il explore tous les sens. Et tout ça, ce sont des pistes merveilleuses à creuser en incarnant les animaux.
Ces lectures, ces questionnements, Jérémy Moreau, s'il fallait parler de leur origine, c'est parce que vous venez d'avoir 33 ans, donc l'âge du Christ, c'est parce que vous êtes père d'une petite fille, ou c'est parce que vous avez vécu ce que nous avons vécu ce printemps, le confinement, des questionnements sur notre rapport au vivant et à la nature?
Bon, la philosophie, ça me vient de mes cours de terminale où j'ai eu un professeur absolument sensationnel, Monsieur Laurent Amato, avec qui j'ai renoué d'ailleurs récemment. Ensuite, il y a évidemment le contexte de ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène, cette espèce d'angoisse qui pèse sur toute cette jeune génération. On a du mal à se prévoir un avenir. Et c'est des questions que j'aborde par des philosophes plutôt de la nature. J'ai plus de mal avec le contexte urbain et sociétal. Donc je sens que mon sujet d'étude se porte plus dans la nature.
Comment vous racontez ce qui nous arrive à votre fille, puisque juste avant de commencer cette émission, vous nous disiez que vous alliez accompagner votre fille à l'école, elle a quel âge, et comment vous lui avez raconté ce qui nous arrive depuis ce printemps, quoi, c'est-à-dire pandémie, confinement, déconfinement, reconfinement, angoisse, stress?
Alors pour tout vous dire, elle a 2 ans et demi, donc pour le moment les explications sont très très light. Le coronavirus, on appelle ça le cocovirus, c'est comme ça qu'ils l'appellent aussi à l'école Montessori. Pour le moment, j'avoue que je ne sais pas encore, on n'a pas vraiment abordé tout ça, on est dans l'apprentissage du langage, et donc finalement je suis encore dans des considérations extrêmement primitives et naturelles de la marche, du langage, de la prononciation, et peut-être pas de la grande réflexion cérébrale.
Thank you.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Pour cette dernière bande dessinée, Le discours de la panthère, vous avez opté pour un trait plus fin, plus classique, avec très peu de dialogue, c'est-à-dire qu'on est loin de cette recherche picturale que vous avez entamée avec La Légende de Grimm, où on se souvient, vous avez utilisé vraiment de la peinture, de la gouache pour raconter cette histoire.
Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, il y a une recherche de gain de temps. Ça commençait à devenir pesant de devoir passer deux ans et demi pour tomber un album. Et donc c'est ma compagne, au détour d'une randonnée, qui m'a dit « Mais je comprends pas pourquoi tu ne changerais pas de technique, pourquoi tu n'essaierais pas de trouver un moyen d'aller plus vite, toi qui as toujours peur de ne pas avoir le temps de raconter toutes les histoires que tu veux raconter dans ta vie. » Et c'est vrai que c'est une obsession, j'ai toujours peur de pas vivre assez longtemps pour raconter tout ce que j'ai à raconter. Et donc voilà, l'outil numérique m'a permis d'aller plus vite et il a nécessité de me réinventer aussi.
Des couleurs d'ordinateur. Et pour le trait ?
Le trait aussi. Le trait également est à l'ordinateur. Et effectivement, il y a eu une sacrée refonte par rapport à la saga de Grimm, où je pense que c'était aussi une œuvre plus de jeunesse et j'étais dans un besoin de démonstration aussi de ce que j'étais capable de faire au niveau des postures, des corps, des couleurs. Et puis là, plus ça va, plus je suis dans une recherche d'épure. Pendant ce confinement aussi, je lisais beaucoup Babar de Jean de Brunhoff à ma fille. Et j'étais vraiment fasciné par la simplicité de ce trait. Assumer de ne faire des yeux qu'avec des petits points, ça c'est le genre de choses que j'aurais été incapable de faire à l'époque où j'étais au Gobelin, où je devais absolument montrer que j'étais capable de parfaitement dessiner les cils, la pupille, de faire des yeux très expressifs. Et finalement, tout ça peut être contenu dans un petit point. Voilà, ça fait partie des grandes transformations de mon style graphique.
Enfin, Jérémy Moreau, quand vous dites que j'ai encore plein d'histoires à raconter, qu'est-ce qui est à l'origine d'une histoire ? Quelles sont les histoires que vous voulez raconter ? C'est tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous n'avez pas pu expliquer ?
Eh bien, je crois que l'origine de tout ce stock, c'est juste un enfant de 4-5 ans qui regarde son Vélux et qui voit les étoiles et qui se demande « Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que c'est la vie ?»
Et qui est toujours présent, alors qu'aujourd'hui, il est toujours là ?
Qui est toujours très 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 présent. Oui, mais je me souviens de mon professeur de philosophie qui nous avait dit « Attention les petits amis, de 18 à 25 ans, c'est là que vous allez pouvoir vous poser les questions philosophiques et ensuite vous n'aurez plus le temps, puisque vous serez emporté dans la vie active et vous n'aurez plus le temps de réfléchir à ces choses-là. » Et finalement, c'est resté très très présent en moi, toujours. Je me réveille souvent en me demandant « qu'est-ce que c'est la vie finalement ?» Et donc c'est ça aussi qui me pousse à transformer ces questionnements sous forme de récit.
Jérémy Moreau, Le discours de la panthère. Merci d'avoir répondu à distance à mes questions, Jérémy Moreau.
Et merci beaucoup, merci à vous.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Souad Boukoursa. Excellente fin de semaine, on se retrouve lundi.
L'esprit d'ouverture.
La conversation scientifique est un jeu d'ouverture, un exercice de politesse de l'esprit.
Sur France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein.
Et par amour maniaque des chiffres ronds, ça dure pile une heure.
La mission Planck a pris la meilleure photo satellite possible des premiers instants de l'univers, il y a près de 14 milliards d'années. Bilan de la mission Planck, dans la conversation scientifique d'Étienne Klein avec François Bouchet, physicien, ce samedi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Tout va si vite.
Sur France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Comment comprendre les palpitations d'un monde où tant de protagonistes interviennent et plus seulement les États, où tant d'enjeux s'entrechoquent, où tant de progrès et de reculs s'entremêlent?
Emmanuel Macron va-t-il réformer l'espace Schengen? Le Conseil européen du 10 décembre pourrait permettre au président français de convaincre ses homologues européens de revoir l'accord de libre circulation entré en vigueur il y a 25 ans. Affaires étrangères, ce samedi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Une campagne de vaccination en trois phases, du mois de janvier jusqu'au printemps. Le gouvernement français a détaillé hier son plan quand le laboratoire américain Pfizer revoyait à la baisse ses capacités de production pour lutter contre le Covid-19. Dans ce journal, nous irons en Allemagne où l'on produit des flacons pour les vaccins. Retour ensuite sur l'hommage d'Emmanuel Macron à Valéry Giscard d'Estaing, l'un de ses prédécesseurs à l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing est mort avant-hier soir. Un hommage donc d'Emmanuel Macron à minima, vous le comprendrez. Les détails ensuite du nouveau portrait social des Français fait cette année par l'INSEE. L'Institut analyse notamment que les réformes de l'année dernière ont augmenté le pouvoir d'achat d'une certaine tranche de la population. Et puis les Français invités à donner leur avis sur la poursuite ou non de l'exploitation des plus anciens réacteurs nucléaire en service dans le pays. L'autorité de sûreté nucléaire est plutôt d'accord avec ce principe. Vous l'entendrez dans moins de 10 minutes. Divisé de moitié, le laboratoire Pfizer a revu à la baisse le nombre de doses de vaccins anti-Covid-19 qu'il pourra produire d'ici la fin de l'année. Il cite des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement de matières premières et Pfizer vise donc 50 millions de doses contre 100 millions. La réalité, après les grandes annonces des laboratoires, car la production d'un vaccin mobilise de nombreux acteurs. Il faudra par exemple fabriquer des récipients qui vont accueillir ces milliards de doses. L'Italie, mais surtout l'Allemagne, compte quelques-uns des leaders de ce marché. Notre correspondant outre-Rhin s'est ainsi rendu à Mayence, où l'on trouve depuis 130 ans l'entreprise Schott. C'est un reportage de Ludovic Piétenu.
L'entreprise Schott est le plus gros producteur au monde du flacon pour vaccins. Les chaînes de production fonctionnent 24 heures sur 24 en Allemagne, en Hongrie et dans 7 autres pays. Et grâce à son usine en Chine, où est apparue la Covid-19, Schott a eu une longueur d'avance.
Au mois de novembre-décembre, si je me souviens bien, on parlait encore que d'épidémie à l'époque, très rapidement, on a compris qu'on avait une grande responsabilité.
Le français Jean-Yves Grandemange est l'un des responsables du groupe.
Au mois de février-mars, les grands laboratoires nous contactent et nous disent « voilà, donnez-nous des indications sur votre capacité à produire pour les livrer à horizon fin 2020, 2021, 2022 ». La magnitude de cette demande était énorme, naturellement.
50 à 100 fois plus que d'habitude. Schott a donc fait les comptes et s'engage à produire assez de flacons pour 2 milliards de doses de vaccins d'ici à la fin de l'année prochaine. Si certains pointent le risque d'une demande supérieure à l'offre, autrement dit la pénurie, ils n'y croient pas.
On a accéléré nos investissements, ce qui va nous permettre de subvenir à une partie des besoins du marché. Aussi, ce qu'on a fait avec nos deux principaux concurrents, l'entreprise Gerresheimer et l'entreprise Stevanato, on a fait un communiqué de presse pour dire qu'on allait mettre assez de flacons pour subvenir aux besoins estimés.
Et de leur côté, les laboratoires lancés dans cette course au vaccin rassurent, ils peuvent utiliser leurs flacons pour un vaccin plutôt qu'un autre et disposent de stocks considérables engrangés depuis des mois, voire des années.
Ludovic, Piétenu. En France, la vaccination n'aura pas lieu avant l'année prochaine. Le gouvernement dévoilait hier son calendrier qui comporte trois phases. Les résidents des EHPAD et leur personnel sont prioritaires pour le mois de janvier. En février viendront ensuite les plus âgés et les plus fragiles. Et puis le reste des Français devra attendre le printemps. Le Premier ministre a promis de la transparence à ce propos. Hier soir, c'est le Président de la République qui s'exprimait également à 20h pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, chef d'État entre 1974 et 81, mort avant-hier à l'âge de 94 ans. Emmanuel Macron a promis de tout mettre en œuvre pour faire vivre la flamme du progrès et de l'optimisme qui animait VGE, sans pour autant jouer la filiation. Vous allez le comprendre avec ce verbatim de Rosalie Lafarge.
Ils ont beau avoir de nombreux points communs, Emmanuel Macron et Valérie Giscard d'Estaing, c'est un hommage presque lointain que rend l'actuel président à son prédécesseur, conscient du demi-siècle qui les sépare.
J'appartiens à une génération qui est née sous sa présidence et qui, sans doute, n'a pas toujours mesuré à quel point Valérie Giscard d'Estaing avait, pour elle, changer la France.
Et de dresser la liste peut-être encore trop méconnue de ce que l'on doit à l'ancien président, le vote à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse, le divorce par consentement mutuel.
Il a présidé à une profonde mutation de notre pays. Il a regardé notre pays en face, avec les yeux d'une génération nouvelle qui a voulu le progrès sans sacrifier de sa liberté.
Alors évidemment, il est tentant de vouloir faire des parallèles, de voir dans la passion européenne de VGE soulignée par Emmanuel Macron, peut-être celle du président lui-même, d'apercevoir derrière le portrait d'un président réformateur parfois incompris, les traits de celui qui lui a ravi le titre de plus jeune président élu. Mais Emmanuel Macron ne joue pas la filiation, il s'attache plutôt à saluer la trace que laissera l'ancien chef d'État.
Une vie, quelques jours et puis plus rien, écrivait Maupassant. Valérie Giscard d'Estaing, pour une fois, fera mentir son écrivain de cœur, car son legs de modernité demeurera.
Par pudeur, Valéry Giscard d'Estaing ne voulait pas d'hommage national, précise Emmanuel Macron. Il annonce donc un jour de deuil national mercredi prochain et un hommage au Parlement européen de Strasbourg début février.
Et d'ici là, les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing se dérouleront demain dans l'intimité familiale à Autun, dans le Loir-et-Cher. Après la mort de Samuel Paty, cet enseignant d'histoire-géographie assassiné en octobre dernier dans les Yvelines par un terroriste, près de 800 incidents ont été recensés par le ministère de l'Éducation nationale dans les établissements scolaires, des provocations, des refus de participer, des apologies du terrorisme, incidents survenus pendant les hommages dédiés à Samuel Paty. Les sanctions vont de l'avertissement à l'exclusion définitive pour 44 élèves. La crise sanitaire, et particulièrement la première vague du printemps, a joué un rôle révélateur dans les inégalités sociales et économiques en France. L'INSEE le confirme avec son portrait social de la France 2020, un portrait qui a été publié hier. L'Institut de la Statistique fait également le point sur les réformes de 2019 et leur impact sur cette année 2020, et surtout leur impact sur le niveau des Français, Anne-Laure Chouin.
Les réformes que l'INSEE qualifie de socio-fiscales en 2019 ont induit une baisse de 0,2 point du taux de pauvreté, une baisse qui peut apparaître modeste, mais que l'INSEE estime significative. Elles ont permis, ces réformes, aux ménages de gagner en moyenne 250 euros de plus par an, et parmi ces ménages, ce sont les personnes avec un emploi et les catégories dites intermédiaires situées juste au-dessus du revenu médian qui en ont le plus profité, avec un gain de 300 à 340 euros par an. En raison principalement de la baisse de la taxe d'habitation, de la CSG et des exonérations des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires. Quant aux catégories les plus modestes et les plus victimes du chômage, l'INSEE estime leur hausse de revenus de 160 à 280 euros annuels. Sur cette catégorie de population, l'Institut note que ce sont les augmentations des prestations sociales qui ont le plus d'effets positifs, or ces prestations ont été pour beaucoup gelées ou désindexées. Enfin, concernant les masses financières mises en œuvre lors de ces réformes, elles auront coûté au budget de l'État 8 milliards d'euros pour la réforme des prélèvements qui bénéficie plutôt aux classes moyennes et seulement 3 milliards et demi d'euros pour celles des prestations sociales qui pourtant ont un effet plus direct sur les classes populaires. Quant aux effets à long terme de cette crise sanitaire qui pourrait bien rebattre les cartes en faisant exploser les inégalités, il reste à être mesuré.
Anne-Laure Chouin pour France Culture. L'autorité de sûreté nucléaire ouvre la voie à la prolongation des réacteurs nucléaires de 900 mégawatts au-delà de 40 ans en France. Cela suppose d'intervenir sur 32 réacteurs parmi les plus anciens en fonctionnement. L'ASN demande d'ailleurs à EDF d'effectuer certaines vérifications techniques, Véronique Roberotte.
L'autorité de sûreté nucléaire demande notamment à EDF de revoir le niveau de sûreté des réacteurs face aux agressions internes ou externes. Inondations, séismes, incendies, il s'agit de tirer les leçons d'un accident comme Fukushima en s'assurant qu'il sera possible d'injecter suffisamment d'eau dans le cœur des réacteurs français en cas d'accident majeur. Il y a aussi la prise en compte de nouveaux enjeux climatiques, par exemple, risque de pénurie d'eau ou au contraire de submersion. Rémi Cato de l'ASN.
Le réchauffement climatique a évidemment un impact sur les centrales nucléaires et en fait il y a dans le cadre du réexamen deux étapes. Une première étape qui consiste à déterminer le niveau d'aléas climatiques auxquels doivent faire face les centrales nucléaires. Et dans un deuxième temps, Vérifier que les centrales peuvent effectivement faire face à ce niveau d'aléa et éventuellement les modifier pour renforcer leur robustesse.
Le défi industriel s'annonce considérable, insiste Bernard Dorozuc, le président de l'autorité de sûreté nucléaire.
Il s'agit du quatrième réexamen des réacteurs de 900 MW, qui sont en nombre les plus importants, il y en a 32. Et donc c'est bien le volume de travaux les plus importants depuis 10 ans auquel EDF devra faire face sur le parc en exploitation, qui viennent bien sûr s'ajouter aux travaux réguliers qui sont réalisés dans les opérations de maintenance lors des arrêts de tranche. Donc le défi industriel est considérable. Dans les 5 années qui viennent, il est considérable.
L'ASN estime qu'il faudra multiplier par plus de 6 le volume des prestataires pour faire face aux travaux à mener sur les réacteurs nucléaires français.
ASN qui a par ailleurs lancé hier une consultation publique sur son site internet à propos de cette possible prolongation. Tous les films de Warner Bros. En 2021 vont sortir simultanément en salle, dans les cinémas et sur les plateformes de streaming. La société de production veut ainsi se protéger des aléas de la crise sanitaire. Rapidement, la météo du jour. Pluvieuse sur l'est de la France, ciel variable ailleurs avec des températures homogènes. 4 degrés à Brest et à Strasbourg ce matin, 6 à Lille, à Paris et à Nevers, 8 à 12 degrés le long de la Méditerranée. C'est l'heure du journal des idées puisqu'il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, ce sont des maillons essentiels du secteur du livre, les salons, les foires et autres marchés qui tentent de s'adapter à la crise sanitaire en réduisant la jauge. La plupart sont reportés, voire annulés, comme oui. Livre Paris. Et pour les organisateurs, les éditeurs et même les libraires, c'est un désastre.
Oui, Clara. Et pour les écrivains, c'est une occasion manquée de rencontrer les lecteurs. Pour les libraires, vous l'avez dit, l'occasion de vendre leurs ouvrages. Sans la foire du livre, il n'y aurait certainement pas cette librairie à Brive, confirme son commissaire général François David dans Le Monde. Gladys Mariva cite le bilan du Centre national du livre qui annonce avoir maintenu ses subventions pour 54 manifestations littéraires annulées ou reportées à condition que les auteurs invités soient rémunérés. La déflagration causée par l'annulation du salon Livre Paris a été terrible en termes d'impact économique, mais le plus brutal a été l'impact moral, souligne Pierre Dutilleul, le directeur général du syndicat national de l'édition. Le marché de la poésie, place Saint-Sulpice à Paris, d'abord reporté du printemps à l'automne, a finalement été annulé par décision préfectorale, de même que la 30e édition du Salon de la Revue. Certains se tournent vers le numérique, faute de mieux, mais comme le déplore Agnès Gros, la directrice de Lettres d'automne à Montauban, qu'est-ce qu'un festival numérique peut faire qu'une bonne émission de radio ne fait pas déjà ? Dont acte. Jacques Reda a dirigé la NRF de 1987 à 1995. Gallimard publie un ensemble de textes parus dans la revue durant cette période. Homme de revue, le poète se sent pourtant vaciller lorsque Claude Gallimard lui annonce cette promotion fabuleuse, être le successeur de Jacques Rivière après Jean Paulhan ou Marcel Arlan. C'est donc en passager clandestin, soucieux de garder l'anonymat dans le fourgon arrière de la noble rame ferroviaire, qu'il délivrera ses chroniques tout en assumant son rôle de chef de train, balançant sa lanterne en tête de chaque livraison. Le titre de l'ouvrage qui les rassemble aujourd'hui reprend celui de sa rubrique, Le fond de l'air. Avant lui, Saint-Gria, Henri Thomas ou Vialat s'étaient également essayés avec leur acuité souriante à tâter le train dont vont les choses ou encore à humer l'air du temps. Dernière enseigne à les accueillir dans la revue. Autant dire que tout y passe, les actualités, les querelles littéraires, les méditations solitaires. La question du langage est très présente. Jacques Reda y revient notamment à propos des tics développés dans les médias, radio et télévision, en s'arrêtant sur la forme la plus élémentaire de réponse à une question, oui ou non, apparemment reléguée comme une réplique d'une indigente banalité. Absolument ou tout à fait semble les remplacer avantageusement. Il ne s'agit pas d'une nuance, mais d'un saut. On bondit dans le prestige impératif, écrit-il. Exemple à un philosophe qui s'étendait complaisamment sur son parcours. L'intervieweur demande « Voilà qui doit donner le sens de la relativité des choses ». Absolument, répond le maître, sans s'embarrasser de la contradiction. De même, on génère, à qui mieux, laissant tomber dans l'oubli toute une famille de verbes, engendrer, produire, occasionner. Grand arpenteur devant l'éternel, à pied, en train ou en solex, Le poète aborde la question du rapport de la toponymie urbaine et de la littérature. En principe, la fonction d'une rue est de conduire quelque part et de le dire aussi honnêtement que possible. Débaptiser une rue de la gare pour l'appeler rue Arthur Rimbaud, c'est offenser à la fois cette rue dans sa dignité de rue et ce poète dans sa solitude et sa féroce pudeur. Aux édits, la vide de s'honorer en croyant honorer de grands noms, on peut suggérer de les remplacer par les titres des œuvres. Entre le boulevard de l'éducation sentimentale et celui de la comédie humaine, on pourrait, par la rue du forçat innocent, rejoindre celle des fleurs du mal. Ou bien, après s'être engagé étourdiment dans l'impasse de la nausée, atteindre le rond-point des illuminations. À défaut d'une meilleure cohérence de son plan, une ville ne pourrait qu'y gagner en pouvoir d'évocation poétique. La dernière livraison de la revue de la NRF publie un dossier sur le paradis. Philippe Lançon y raconte un vol pour Madrid pour découvrir en compagnie d'universitaires et de journalistes un manuscrit inédit de Cervantes récemment découvert, une sorte d'épilogue à Don Quichotte intitulé « El Paraíso ». Épisode picaresque supplémentaire du chevalier à la triste figure qui, depuis l'Éden, plonge en enfer pour délivrer ses lecteurs. Et c'est ainsi que le livre recommence. (Musique) 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, le Nigeria, les camps de réfugiés qui fuient Boko Haram sont évacués par les autorités.
Oui, au total, ce sont 2 millions de personnes qui sont à tout le moins encouragées à retourner dans leurs villages, fussent-ils ces villages situés dans le nord-est du pays et exposés à la menace permanente des groupes djihadistes, Boko Haram ou l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Le week-end dernier encore, plus de 70 civils étaient massacrés alors qu'ils travaillaient dans une rizière. Les autorités fédérales ou locales disent ne plus pouvoir les prendre en charge et surtout s'inquiète pour la sécurité alimentaire du Nigeria si les agriculteurs, les cultivateurs laissent leurs terres et leurs bêtes à l'abandon. Bonjour Vincent Fouché.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, où sont-ils les réfugiés qui ont quitté les zones les plus menacées par les groupes djihadistes ?
Alors on en trouve depuis longtemps, un peu à travers tout le pays et aussi d'ailleurs dans les pays voisins. Mais le gros est installé dans des camps autour de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, hein, l'État dans le nord-est qui est le plus affecté. Et il y a un effort actuellement des autorités du Borno pour ramener les déplacés vers leur communauté, plutôt dans les sous-préfectures, si on veut, qui sont en fait des villes secondaires fortifiées.
À chaque fois, fortifiées alors, parce que comment l'armée les protège, ces villes-là, qui se trouvent donc dans des régions très menacées par les djihadistes?
Alors c'est très spectaculaire, on peut aller voir ça sur Google Maps, mais en fait il y a des tranchées de plusieurs kilomètres hein, qui ont été creusés tout autour de ces villes où on a des camps de déplacés hein, absolument énormes qui sont installés.
Donc c'est quoi? C'est une façon de protéger presque médiévale à la Château-Fort et avec des remparts et presque des fossés quoi.
Exactement. Les tranchées, c'est important parce que ça empêche les survenus de motos ou de véhicules pour des opérations rapides.
Et qu'est-ce qu'ils y ont fait, les réfugiés dans ces villes? Est-ce que pour certains, ils y ont refait une vie, trouvé un emploi? Ça fait des années pour certains qu'ils y sont.
Alors, il y a le problème, en fait, c'est que ils sont dans ces villes secondaires, mais l'accès aux terres est très difficile, puisque ça veut dire justement sortir des tranchées. Et dès qu'on sort des tranchées, mais on risque de rencontrer les gens de Boko Haram, les gens des deux factions. Alors, les deux factions sont un peu différentes, mais dès qu'on veut fréquenter les campagnes, on sort de l'ère de protection de l'armée.
Parce que l'armée nigérienne, elle ne peut pas être présente au-delà de ces villes, notamment si les militaires sont, dans les semaines ou les mois qui viennent, déchargés d'une partie des réfugiés qui étaient jusque-là en ville. Est-ce qu'ils peuvent partir avec eux, si j'ose dire, pour les protéger chez eux?
Alors, c'est la théorie. Et de fait, parfois, il y a des sorties qui sont organisées, hein, sous la protection de l'armée, pour aller récolter du bois, pour aller faire paître des animaux, pour aller cultiver un peu. Mais ce qu'on voit, c'est que l'armée a quand même, au global, du mal à tenir le terrain. Elle a subi des pertes importantes ces dernières années. Et en fait, à partir de juillet 2019, une nouvelle stratégie a été adoptée. Hein, plutôt que de laisser des postes un peu dispersés, des petits postes un peu dispersés, l'armée a rassemblé ses hommes sur une série de gros points de défense. Évidemment, tout ça laisse beaucoup de champ aux djihadistes. Évidemment, c'est assez contradictoire avec l'idée d'un retour des déplacés qui leur permettrait l'accès aux fonciers.
Dans les campagnes, l'armée privilégie les bombardements et évite les combats au sol. L'accès aux fonciers, dites-vous, Vincent Fouché, il se trouve que ces réfugiés sont principalement des agriculteurs, des pêcheurs, des bûcherons. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que la très grande partie des habitants de ces régions exercent ces métiers-là ou est-ce que c'est parce que les djihadistes les ciblent, eux, particulièrement ?
Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une stratégie délibérée des djihadistes pour provoquer une crise alimentaire. Ce qui est clair, c'est que la population de cette zone-là, c'est une population encore très rurale, très agricole, dans une zone qui est une zone favorable à l'agriculture. Et donc, sans terre, les gens ont du mal à survivre, ils sont dépendants presque exclusivement de l'aide humanitaire, qui pose des problèmes aussi de sécurité, enfin, qui est parfois défaillante, insuffisante. Et puis, c'est jamais très satisfaisant quand on est un être humain de dépendre de l'aide humanitaire.
Il faut se figurer cette région, autrefois considérée comme le grenier à blé du lac Tchad. Les ONG estiment aujourd'hui à 4 300 000 personnes le nombre de personnes victimes d'insécurité alimentaire au Nigeria. Est-ce que la crise alimentaire est exclusivement due à l'augmentation des violences ?
Alors, c'est en l'occurrence, oui, la surcrise, elle est totalement liée à ça, au fait que les gens sont déplacés et ne peuvent plus accéder à leurs terres.
Il y en a d'autres. Quelles sont-elles ? Vous avez le temps. Hein, vous pouvez développer un peu.
Ce sont des zones qui sont des zones qui sont aussi écologiquement assez fragiles. Hein. Il y a des variabilités des pluies, par exemple. Il y a des invasions de criquets. Il y a toute une série de facteurs qui, à un moment ou à un autre, peuvent ajouter aux difficultés. Mais voilà, là c'est très clair, le problème c'est l'accès à la terre.
Il y a aussi des données démographiques, le Nigeria compte aujourd'hui plus de 195 millions d'habitants, il sera sans doute dans une trentaine d'années le troisième pays le plus peuplé de la planète. En 2016 on parlait plus de crise alimentaire mais de famine. Est-ce que les Nigérians du Nord-Est et les Nigérians tout court risquent de revivre cette tragédie-là ?
Là, on est un peu à la limite. Si on regarde les indicateurs disponibles par les organisations internationales, on est au stade 4, hein, on est juste avant la famine. La famine, c'est le stade 5. Et donc là, on est dans certaines zones du Borno, on est en stade 4. Et comme en fait, en ce moment, on doit être en train c'est la fin des cultures, on doit commencer à récolter. Donc si dans les mois qui viennent, on ne peut pas finir le travail, ça va être très compliqué.
Et les ONG, est-ce qu'elles arrivent à travailler ? Parce que les militaires nigérians les accusent parfois de soutenir les djihadistes.
Oui, alors ça, on est dans une zone où on a une abondance de fake news et de théories du complot. On cherche tout le temps à trouver des boucs émissaires et les organisations internationales d'aide ont bon dos là-dessus. Il y a eu plusieurs épisodes, y compris l'invasion d'un compound d'un site de l'UNICEF par les militaires. Donc ça, c'est évidemment absurde. Ce qui est clair, c'est que entre les pressions que les autorités militaires ou civiles leur exercent parfois, et puis la menace des djihadistes, il y a quand même depuis quelques années un certain nombre de travailleurs humanitaires qui ont été enlevés ou tués par les djihadistes. Le travail est très compliqué, il y a beaucoup de déplacements qui ne se font maintenant plus que par hélicoptère, avec des présences intermittentes dans ces villes secondaires, des personnels d'aide humanitaire.
Alors quand on dit les djihadistes, il faut profiter de votre présence avec nous ce matin, Vincent Fouché, pour rappeler de quel groupe terroriste il s'agit. Le groupe Boko Haram, on le sait, est lié au Nigeria, mais il faut rappeler que certains groupes ont fait sécession de Boko Haram et se sont rapprochés de l'État islamique.
Alors oui, donc Boko Haram, la branche historique hein, dirigée par Aboubakar Shekau, a fait allégeance à l'État islamique en 2015 et en 2016, le mouvement s'est fracturé en deux puisque toute une série de personnages du mouvement étaient mécontents des résultats et des méthodes de Shekau qu'ils considéraient comme trop violents. Hein. Alors c'est pas le seul reproche qu'ils lui faisaient, mais son attitude envers les civils musulmans était considérée comme comme très excessive. Et donc cette faction qui a fait sécession en 2016, c'est elle qui est restée avec l'État islamique, hein. Et elle est un petit peu plus tolérante envers les civils musulmans. Elle a fait un certain effort pour essayer de reconstruire les liens avec eux, notamment pour des raisons de ravitaillement, hein. Il faut avoir une population avec laquelle on peut commercer, qu'on peut éventuellement taxer. Donc ils ont changé un peu d'attitude. Et de fait, le tout dernier massacre dont on a beaucoup discuté ces derniers temps à Zabarmari, au cours duquel plus de 70 hommes adultes ont été tués, c'est la faction de Chekao, la faction historique qui l'a commis, et elle a commis ce massacre parce qu'un membre de la communauté apparemment avait livré un djihadiste aux militaires. Donc là, il y a quand même encore une différence dans les modes opératoires, même si un certain nombre de signes invitent à se demander si cette différence-là n'est pas en train de se réduire. Il y a peut-être un durcissement de la faction qui était la plus critique envers Chekao, et on voit comme ça des violences envers les civils qui commencent à monter aussi dans leur espace.
Et pour conclure, Vincent Fouché, pour l'International Crisis Group, vous avez publié très récemment un rapport sur justement cette question des groupes djihadistes, leur lien avec l'État islamique et leur stratégie différenciée. Vous avez rencontré pour ce faire 16 transfuges. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait défection? Est-ce qu'ils vous ont dit s'ils étaient nombreux, les combattants de ces groupes armés, à se demander s'ils n'allaient pas suivre la même démarche? Autrement dit, est-ce que progressivement ces groupes-là se dépeuplent où ils ne font que recruter?
Oui, je crois qu'il y a des signes, hein, qui montrent qu'il y a quand même des tensions au sein des mouvements qui expliquent les sorties, et les gens que j'ai rencontrés indiquent qu'ils sont en contact encore des deux côtés, hein, du mouvement, et qu'ils entendent qu'il y a d'autres gens qui sont disposés à sortir. Alors c'est lié au fait que la guerre s'éternise, les perspectives de victoire ne sont pas nécessairement évidentes, hein, même si les mouvements tiennent le terrain, au fond, ils n'ont jamais vraiment réussi à prendre des grandes villes et à les occuper durablement. Et donc, ça suscite quand même des réflexions parmi certains d'entre eux. Par ailleurs, il y a aussi des tensions internes, hein, des soupçons, des accusations, des frustrations par rapport à la manière dont les bénéfices de la lutte sont partagés, les responsabilités. Il y a eu
Vincent Fouché, de tuerie interne. On met en ligne votre rapport sur le site des enjeux internationaux. Je vous remercie beaucoup, Vincent Fouché, d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Économe, elle mangeait avec lenteur et recueillait du doigt sur la table les miettes de son pain. Un pain de 12 livres.
C'est un cœur infini. L'amour à l'état absolu, dit-il à propos d'un cœur simple. France Culture vous propose de redécouvrir ce conte de Flaubert dans la voix de Fabrice Luchini. 2021 célébrera le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. En mémoire de ce géant de la littérature, une lecture exceptionnelle de Fabrice Luchini. Un cœur simple, théâtre et compagnie, ce dimanche à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Guillaume, est-ce qu'on peut tout dire sur la vie privée de Valéry Giscard d'Estaing?
Oui, mais alors là, attention Julie, lorsque je vous demande si l'on peut tout dire, c'est au sens de Wittgenstein, hein, pas de voici, nous sommes sur France Culture, je veux dire... Peut-on tout dire? Est-il possible d'énoncer la vérité ultime d'un homme? Et plus prosaïquement, VGE a-t-il eu une love affair avec la royal princesse Lady Di? Si je vous dis ça, c'est parce qu'en 2009, VGE avait publié La princesse et le président, un livre qui racontait une histoire d'amour, je vous le donne en mille, entre un président et une princesse. Alors s'agissait-il d'histoire ou de fiction? Je veux dire d'une histoire fictionnée, enfin, vous avez compris. Or donc, au moment précis où le second protagoniste de cette liaison réelle ou imaginaire disparaît, une autre interrogation apparaît sur l'histoire de la famille royale britannique. Car figurez-vous que VGE n'était pas le seul à évoquer la vie d'une princesse délaissée par un époux royal, je ne vise personne, une série anglaise raconte également cela. En ce moment même, je veux parler de The Crown, et quand je dis cela, je veux parler de la vie privée de Lady Di et de sa clique. Et cette série de proposer la vérité, enfin sa vérité, sur le couple que formaient donc Madame Di et Monsieur Charles. Sauf que là aussi, un doute existe sur la réalité de ce qui est énoncé. S'agissait-il de réalité ou de fiction, de réalité fictionnée ou d'une fiction réelle ? Cela a conduit le ministre de la Culture britannique, Olivier Dowden, à déclarer, si j'en crois le Huffington Post, que cette série décrivant le prince Charles comme froid et infidèle était, je cite, une superbe fiction, mais que ce n'était donc qu'une fiction. J'imagine que dans son esprit, une superbe fiction vaut mieux qu'une réalité laide. Dès lors, on en vient à regretter que le ministre de la Culture en France en 2009, c'était Frédéric Mitterrand à l'époque, ne se soit pas prononcé sur le caractère réel ou fictionnel de cette liaison qui aurait uni VGE et Lady Di. Un communiqué gouvernemental aurait été le bienvenu, celui-ci indiquant qu'il s'agissait d'une merveilleuse idylle entre les deux, une merveilleuse idylle parfaitement inventée. Plus généralement, il serait évidemment utile que le ministère de la Culture indique face à tout récit s'il s'agit d'une réalité ou bien de fiction. Par exemple, cette histoire de VGE, est-il vrai qu'il est vivant et que nous sommes morts ?
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Bon réveil à tous et nous débutons avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.